Radio Stable.
Morning Edition from NPR.
Sí, sí, Sandy. Hola,
lo que se reproduce aquí en la radio.
France Inter, le 18-20.
Pour nous, les aurores, c'est colza. Dans nos traditions, nous disons que ce sont les âmes des morts qui dansent dans le ciel.
Voilà, dit comme ça, c'est terriblement poétique, un petit peu flippant aussi, quand même. Dans un cas comme dans l'autre, que c'est beau, une aurore boréale. Je vous emmène en voir en Laponie suédoise d'ailleurs. Un but pour les vacanciers, évidemment. Parfois étonné d'ailleurs que le phénomène ne se produise pas pile pour la photo. Ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde. Sous les radars et Amélie Perrier, vous l'avez entendu, à Jérusalem, aux Maldives et en Corée. 18h50, le cinéma en VO et Eva Bétan avec un film sud-africain qui s'appelle Les Moissonneurs. Et puis 18h55, Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four avec des démocrates américains qui sont tellement nombreux à vouloir être candidats aux élections présidentielles qu'ils sont peut-être happés par la machine à perdre. Mais avant, on visite l'Europe, une Europe qu'on n'a pas forcément envie de voir tous les jours d'ailleurs. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le monde.
On s'alarme beaucoup en France à juste titre. On parlait à l'instant dans le journal de ce chat sur France 3 qui a dû être annulé à cause de ses propos antisémites. On défile, on l'a montré hier, on sait remplir la place de la République à Paris par exemple quand on est collectivement effrayé par une montée de l'antisémitisme. Maintenant, c'est un principe d'un jour dans le monde. Avant la prise de parole d'ailleurs du président Macron au dîner du CRIF dans un instant, on va regarder chez nos voisins comment ça se passe. Bonjour Dominique Moisy.
Bonjour.
Conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Chez nos voisins qui ne sont guère mieux lotis que nous, à un moment, disons les choses, si on en juge par des chiffres qui sont finalement aussi alarmants que les nôtres, alors quoi? Est-ce que c'est un phénomène européen de regain d'antisémitisme? Est-ce que c'est même un phénomène plus large? Comment vous le voyez-vous?
Alors, je crois que c'est un phénomène mondial. Mmh. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu, il n'y a pas très longtemps, à Pittsburgh, une attaque contre une synagogue qui a été la plus violente que l'Amérique ait connue depuis des décennies. Vous avez un antisémitisme sans juifs, ou avec des juifs en proportion infinitésimale, comme en Pologne. Vous avez un antisémitisme, je dirais, plus classique, qui se rapprocherait de celui de la France en Grande-Bretagne. Vous avez un antisémitisme en Italie, en Hongrie, c'est presque un principe. Donc oui, c'est la chose la plus répandue au monde.
Vous l'avez un peu évoqué, effectivement, il y en a diverses sortes. Je voulais vous emmener effectivement en Grande-Bretagne avec un Jeremy Corbyn qui est complètement empêtré dans des déclarations de son propre camp dont il n'arrive pas lui-même à se débarrasser réellement. Est-ce que ça, effectivement, ce sont deux antisémitismes qui se ressemblent? En quoi sont-ils très similaires? C'est terrible à dire comme ça, mais le leur et le nôtre.
Je crois qu'il y a la rencontre d'un antisémitisme d'origine islamique, qui est très présent en Grande-Bretagne, et un antisémitisme plus classique, même si dans le cas britannique, il provient plus de l'extrême-gauche, en tout cas il est plus visible à l'extrême-gauche qu'à l'extrême-droite. Alors je ne crois pas que Corbyn lui-même soit antisémite, mais il est prisonnier d'une vision radicale du monde, celle des années 70, et il n'arrive pas à sévir contre certains de ses lieutenants qui sont passés directement dans l'antisémitisme le plus direct, même s'il prend le biais de l'antisionisme. Et on retrouve
Les mêmes débats.
Un débat qui est tout à fait... Quand vous entendez en France un adjoint très proche de Jean-Luc Mélenchon, Éric Coquerel, dire « Mais si on fait passer ces lois contre l'antisionisme, on ne pourra plus dire « Abba Israël ». Et la formule est extraordinairement révélatrice. Il ne dit pas « On ne pourra plus dire « Abba la politique de Netanyahou ». Quand on dénonce le Venezuela, on ne dit pas « Abba le Venezuela ». On peut dire « Abba la politique de Maduro ». Et je crois que c'est là où le dérapage est particulièrement intéressant.
Est-ce que nous, on a en ce moment un mouvement sur lequel on revient beaucoup, qui est celui des Gilets jaunes. Les Britanniques ont eu leur Brexit, qui a été une espèce de montée populiste. Alors, on ne va pas comparer... on peut comparer, disons que les choses sont un peu différentes, mais la montée est un peu la même. Est-ce que ça veut dire que un regain d'antisémitisme chez nous, dans nos pays, s'accompagne forcément d'une attaque du modèle européen? On a l'impression que les deux vont de pair.
J'intervertirai les termes.
Okay.
C'est-à-dire qu'une montée du populisme, qui s'est traduit en Grande-Bretagne par le Brexit, qui se traduit en France par le mouvement des Gilets jaunes, conduit de manière presque inévitable, logique, à la montée de l'antisémitisme. Parce que le populisme est fondé sur une culture de peur. Peur identitaire. Qui suis-je ? Peur de l'autre, peur de l'échec, peur de l'avenir. Et quelque part, le juif a servi historiquement de bouc émissaire dans cette culture de peur. Parce que c'est une forme de racisme très particulière. Contrairement au racisme à l'égard des Noirs, le juif n'est pas assez visible. Mmh. Il est trop blanc, trop proche. Il paraît encore plus inquiétant par son absence de différence même. Et on l'accuse de trop réussir et pas d'être inférieur.
Mais Dominique Moisy, cette peur dont vous parlez, on la retrouve en Italie par exemple en ce moment. C'est ce qui a donné ce résultat très baroque aux élections et qui donne ce que nous, là où nous en sommes aujourd'hui dans ce pays. Et pourtant, on entend moins parler de phénomènes d'antisémitisme comme le nôtre. Est-ce que c'est simplement parce que pour l'instant il ne passe pas les Alpes, ou est-ce qu'on réagit différemment en Italie, à votre avis?
Je crois qu'il y a plusieurs réponses à cela. Il y a d'abord un phénomène quantitatif. Mm-hmm. La communauté juive italienne comporte moins de 30 000 personnes. Mm-hmm. La communauté juive française
est la plus importante
d'Europe. Ensuite, même si on considère que Matteo Salvini est plus l'héritier de Mussolini que l'héritier de Berlusconi, en fait, il n'y avait pas, au départ, le moindre élément d'antisémitisme dans la vision de Mussolini du pouvoir. Il s'est rallié à l'antisémitisme du fait de son alliance avec Hitler, et très tardivement dans l'histoire du fascisme italien. Donc on voit au contraire Salvini qui fait des déclarations, qui fait la cour à la communauté juive en lui disant, en célébrant de manière très solennelle le 80e anniversaire, le 80e anniversaire des lois raciales en Italie.
Et même en Allemagne, en ce moment, Dominique Moisy, alors qu'on a l'impression que c'est le seul pays, s'il y a bien un pays qui doit être épargné par ce genre de choses, c'est bien l'Allemagne. Avec une montée qui est moins importante que la nôtre, mais une montée qui existe aussi malgré tout.
Je crois que les actes antisémites ont augmenté en France de 74%, 74 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On me dit qu'ils ont augmenté de 50% en Allemagne. Et c'est effectivement le pays qui paraissait le plus vacciné contre le retour de cette face sombre de l'histoire européenne.
Mais est-ce que c'est le temps, on va rejoindre Ludovic Piétenu dans un instant en Allemagne, est-ce que c'est le temps finalement, le temps qui s'écoule et qui rend ces choses moins palpables là, qui fait que on peut avoir une augmentation de 50% ou quelle que soit cette augmentation dans un pays comme l'Allemagne?
Je crois que le passage du temps est l'élément décisif. Mais au-delà du passage du temps, il y a la dénonciation d'Israël, et il y a le retour de l'extrême droite. L'AFD ne fait que 12,5% en Allemagne globalement, mais 25% dans ce qu'on appelait hier l'Allemagne de l'Est.
Alors allons-y en Allemagne. Bonsoir Ludovic Piétenu.
Bonsoir Fabienne.
Et c'est vrai, on le disait, une augmentation chez nous qui est très, qui est vertigineuse à 74% effectivement. On l'a déjà dit plusieurs fois, mais qui existe aussi chez vous. Est-ce que ça a suscité le même genre d'effroi en fait ou pas?
Oui, absolument. Oui, ça a été vraiment condamné par toute la classe politique ici, évidemment par la communauté juive, parlant d'une augmentation effrayante, c'est le terme exact. Un nombre de cas ici en hausse, plus 10% l'an dernier, ce qui porte le cas d'actes antisémites à 1646. C'est presque autant qu'il y a 10 ans, et à cela, il faut ajouter les violences anti-juives. Elles ont doublé, la police en a recensé 62. Là, il faut remonter à 2007 pour retrouver un nombre équivalent. La communauté juive, Fabienne, en Allemagne, ce sont 200 000 personnes. personnes environ, avec une peur, quand on leur parle, une peur ressentie de plus en plus forte, une inquiétude dans cette communauté. Par exemple, 1000 membres ont été récemment interrogés dans le cadre d'un sondage commandé par la Commission européenne. 41% de ces 1000 juifs allemands déclaraient avoir déjà vécu une expérience antisémite, quand la moyenne européenne est de 28%. Il y a donc bien en Allemagne, plus qu'ailleurs, un problème.
Et Ludovic, on en parle à l'instant avec Dominique Moisy. Est-ce que l'entrée de l'extrême droite au Bundestag a libéré une forme de parole? Est-ce que c'est aussi comme ça qu'on analyse les choses chez vous ou pas?
Clairement, oui. C'est une tribune dont ce parti dispose depuis septembre 2017, depuis un peu plus d'un an, effectivement, ici au Parlement. Il y a quelques semaines, on se souvient de cette voix forte de la communauté juive allemande, de la génération des rescapés de la Shoah, Charlotte Knobloch, qui avait pris la parole à Munich devant les élus du Parlement de Bavière, parmi lesquels 22 nouveaux membres de l'AFD, le Parti Alternatif pour l'Allemagne. Et cette phrase qu'elle avait prononcée devant eux, les yeux dans les yeux, les avait fait se lever d'un seul bloc et quitter l'hémicycle. Elle leur avait dit très clairement: votre parti méprise nos valeurs, il minimise les crimes de l'époque nazie, il entretient des relations étroites avec tous les milieux d'extrême droite, tous ces milieux néo-nazis, vous êtes une soi-disant alternative pour l'Allemagne, mais vous fondez votre politique sur la haine et l'exclusion. Le gouvernement allemand en fait reconnaît que c'est une forme d'antisémitisme liée à ce discours de l'extrême droite. Il reconnaît aussi une autre forme d'antisémitisme, celui lié à l'afflux de centaines de milliers de migrants en 2015-2016 venant pour la plupart de pays arabo-musulmans, Irak, Syrie, Afghanistan, qui en plus de la forte communauté turque installée déjà ici en Allemagne, ont créé une situation nouvelle, l'importation du conflit israélo-palestinien.
Une dernière chose, Ludovic, comment on nous regarde, nous, en fait? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de presse autour des manifestations qui ont eu lieu hier en France. Comment on nous regarde de votre côté à vous?
C'était une Allemagne vraiment sous le choc, je crois, de ces actes de vandalisme répétés, de tout ce dont on a parlé dans l'actualité française ces derniers jours, ces dernières semaines, de ces actes qui se multiplient, de ces chiffres dont on parle ce soir. Et c'était assez impressionnant ce matin d'ouvrir les journaux en Allemagne avec ces photos de la place de la République absolument partout, cette foule française à la une dans toute la presse allemande. La presse, les éditorialistes, les politiques, tout le monde s'inquiète de cet antisémitisme, de ces juifs de France qui se sentent menacés, par exemple, c'est ce que s'estimait la chaîne de télé ZDF. C'est une véritable inquiétude ici, vraiment chaque cas de vandalisme est rapporté ici et décrypté avec beaucoup d'inquiétude.
Ludovic Piétenu à Berlin pour Un Jour dans le Monde, merci beaucoup. Dominique Moisy, vous le rappeliez dans une tribune récente, vous rappeliez les mots de Simone Veil disant « L'Europe est le seul rempart ». Est-ce que l'Europe est encore le seul rempart?
Plus que jamais. Les populistes sont ceux qui attaquent les valeurs de l'Union européenne. Aujourd'hui, ils ne disent plus « nous allons sortir de l'Europe ».
Non.
Parce qu'ils se sont rendus compte que leur électorat ne les suivait pas, ni de la zone euro, ni de l'Europe. Mais en fait, ils proclament, derrière Matteo Salvini en Italie et Viktor Orban en Hongrie, « nous sommes le futur de l'Europe ». Mais en fait, c'est une Europe antithétique des valeurs de l'Europe.
Mais précisément, c'est ce que vous dites, d'ailleurs, l'Europe est à la fois la solution et le problème. Donc oui, l'Europe est un rempart, l'Europe a été un rempart jusque-là, mais si l'Europe aujourd'hui se fractionne, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les derniers sondages, et y compris avec une vraie montée de ces mouvements populistes, est-ce que ce rôle de rempart qu'elle est censée jouer, elle peut toujours le jouer?
Si les partis pro-européens l'emportent, garde la majorité aux prochaines élections européennes. Il était très intéressant de voir, il y a quelques jours, dans la presse, une tribune publiée par les fils et les filles des déportés de France, appelant les juifs français à voter pour des partis pro-européens aux élections européennes. Alors même que la communauté juive avait plein de réserves à l'égard du processus d'Union européenne.
Mais vous le voyez comme nous, encore une fois, ces mouvements aux prochaines élections, pour l'instant, ne prendront pas le pas sur le reste. Les deux grands mouvements européens restent pour l'instant majoritaires, mais l'éparpillement fait que tous ces populismes, d'où qu'ils viennent, en fait, de droite ou de gauche, sont en train de grappiller très fortement. Donc, encore une fois, est-ce que le rempart est tout aussi solide qu'il l'a été, en fait?
La réponse est non, bien évidemment. Mais je crois qu'il faut éviter deux écueils. Le premier consiste à ne pas voir la gravité de la situation. J'ai 72 ans, je ne crois pas avoir connu un moment aussi tragique dans mon identité de Français, Européen et Juif. Je ne crois pas avoir connu une telle montée de menaces. Et en même temps, le deuxième écueil consisterait à dire « c'est fini, la démocratie a perdu ». Ce serait aussi absurde que lorsque Francis Fukuyama disait en 1992, après la chute du mur de Berlin, « nous connaissons la fin de l'histoire, la démocratie l'a emportée ». Non, l'histoire, en ce moment, s'accélère devant nous, mais elle hésite. Elle ne sait pas encore dans quelle direction elle devrait aller. Est-ce qu'on peut assister à un retour ?
On est dans la zone grise.
On est dans la zone grise. Est-ce que, au fond, les partis populistes, surtout à l'extrême droite, engagent un combat contre les principes de la démocratie, qu'il s'agisse de la liberté, de la tolérance. Les partis démocratiques sont attachés aux valeurs des Lumières, à l'esprit du XVIIIe siècle, à leur hymne, l'hymne à la joie de Beethoven, qui symbolise toutes ces valeurs.
Et au fond, c'est peut-être la double appartenance. D'ailleurs, lorsqu'on met des croix gammées sur la tête de Simone Veil, on met une croix gammée à la fois sur la Simone Veil, la juive qu'elle est, mais l'européenne forcenée qu'elle a été aussi. Et peut-être que lorsqu'ils font ce dessin, ils ne se rendent même pas compte eux-mêmes, mais il y a ce double symbole qui existe aussi.
Je crois qu'il y a le côté sainte laïque et qu'elle est devenue avec sa panthéonisation. Et je pense qu'ils le font essentiellement parce qu'ils se disent... ça va faire parler de nous, nous sommes en train de violer un tabou. Et c'est le triomphe de la bêtise.
Et ce sera le mot de la fin. Mais j'espère qu'on aura d'autres mots un peu plus positifs autour de ces sujets-là. Dominique Moisy, merci beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Ensuite, ça se passe en Laponie, figurez-vous. Je vous emmène voir des aurores boréales et c'est pas tous les jours. Ce sera grâce à Frédéric Faux, Sous les radars, et Amélie Perrier qui vous racontera notamment ce tollé en Corée du Sud. Dès lors qu'on veut changer des choses dans les groupes de K-pop, le cinéma en VO, Eva Bétan, bonsoir.
Bonsoir.
Avec un film sud-africain ce soir, dites-moi.
Oui, un film post-apartheid et un côté qu'on regarde rarement du côté d'une famille afrikaner.
Et on verra ça donc dans un instant ensemble, le monde à l'envers. Jean-Marc Four.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
J'aimerais bien être présidente des États-Unis, Jean-Marc, s'il vous plaît. J'ai un créneau.
Oui, jouons ensemble. Toi aussi, sois candidat à la primaire démocrate.
Et on verra ça ensemble. Donc le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par Liverpool. While my guitar gently whips. Un petit Beatles. Ça nous recale une émission, cette affaire. Gently Whips, les Beatles, Sous les radars, et Amélie Perrier, c'est maintenant.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Émilie, c'est l'histoire d'une famille qui raconte un peu l'histoire de Jérusalem.
Sur fond de conflits israélo-palestiniens, de spéculations immobilières et de batailles judiciaires. La famille Abu Assab a été expulsée dimanche de son domicile dans la vieille ville de Jérusalem. Elle vivait là depuis les années 50. Toute ma vie, j'ai vécu ici, dit Rania Abu Assab en pleurs à la porte de sa maison dimanche quand on est venu l'expulser. C'est ma vie, cette maison. Des colons juifs ont porté l'affaire en fait devant la justice avec en tête un rabbin, Shmuel Rabinovitz, qui officie au mur des lamentations. Car en fait, avant la guerre de 1948, une famille juive possédait cet immeuble dans Jérusalem-Est. En 48, date de création d'Israël, la famille juive est relogée dans un autre quartier de la ville sainte. La famille Abu Assab s'installe dans cette maison. Mais aujourd'hui, une loi israélienne permet le retour des juifs dans leurs anciennes propriétés à Jérusalem-Est, la partie de la ville occupée, annexée par l'État hébreu, une annexion qui n'est pas reconnue par la communauté internationale. Et si les juifs peuvent récupérer leurs biens abandonnés en 48, pas question pour les Palestiniens de prétendre à la même chose. Ne peuvent pas récupérer les logements qu'ils ont dû abandonner à l'époque. Alors on sait l'enjeu politique pour les colons israéliens de s'installer dans les quartiers arabes. Il y a aussi un enjeu économique car le prix de ces biens flambe. En fait, pour récupérer les immeubles des Palestiniens, des colons font monter les enchères pour racheter ces biens. Le prix d'une maison à Jérusalem-Est, au cœur d'une bataille immobilière, vient d'atteindre 3 millions de dollars, nous raconte le quotidien Haaretz.
Allez, maintenant nous allons vers les Maldives.
Alors vous imaginez déjà les plages de rêve, le sable blanc, les hôtels de luxe, l'océan Indien, oui, ça vous fait un petit peu rêver, j'ai l'impression.
Ouais.
Alors là, pas du tout, je vais vous parler de la crise politique que traverse ce pays au centre d'enjeux géostratégiques insoupçonnés. L'ancien président du pays, Abdullah Yamin, vient d'être arrêté et placé en détention. Abdullah Yamin, c'est lui. Alors ici, à l'automne dernier, il reconnaît sa défaite aux élections législatives.
Pas d'où il la reconnaît, mais de sa salle de bain, là, visiblement.
Oui, bon, c'est les Maldives. Hein. On est sous l'eau. Alors la défaite, c'est une défaite surprise, tant cet homme a dirigé d'une main de fer les Maldives. Il a muselé l'opposition, il a réduit les libertés publiques au maximum. Et là, il va rester en prison jusqu'à la fin de son procès pour blanchiment d'argent. On a retrouvé un virement $1 million sur son compte. Avec ses proches, il est soupçonné d'avoir détourné des millions de fonds publics des Maldives. Une chute brutale pour Abdullah Yamin et un coup d'arrêt aux ambitions de la Chine, car l'ancien président était très proche de Pékin. Traditionnellement, la micronation était plus proche de l'Inde, mais les Chinois avaient réussi donc à convaincre le pouvoir de lui ouvrir ses portes pour ses nouvelles routes de la soie. Un accord a été conclu, par exemple, pour la construction d'une station d'observation océanique, dont on ne sait pas trop si elle a des visées environnementales ou militaires. Alors, la prise de pouvoir de l'opposition pourrait signifier aujourd'hui une certaine prise de distance des Maldives avec la Chine, même si les grands chantiers ne seront pas remis en cause. Le nouveau dirigeant de l'archipel a quand même affirmé qu'il voulait se tourner de nouveau vers l'Inde, vers les États-Unis et l'Union européenne.
Amélie, qu'est-ce qui fait trembler le pouvoir en Corée du Sud?
Alors pas seulement les menaces nucléaires de son voisin du Nord, non, le sujet explosif là-bas, c'est ça. Six bomb. Six bomb. Six bomb. Six bumpy. Six bumpy. Yo. Six bombes. Ça vous a réveillé?
Non,
Six bombes.
Ouais. Six bombes, j'avais compris autre chose.
Six bombes. Okay. Bon. Un groupe, c'est un groupe parmi d'autres, de K-pop, vous savez, la musique pop coréenne. Le gouvernement a dû reculer, rétropédaler, annuler son plan pour promouvoir la diversité dans le monde de la K-pop. La semaine dernière, en fait, le ministère de l'égalité des genres critiquait l'allure trop similaire des stars de cette musique. Pour les femmes surtout, elles sont toutes minces, très maquillées, très légèrement vêtues. Le ministre demandait aux producteurs de télé de diversifier les chanteurs qu'ils programmaient. Critique immédiate sur les réseaux sociaux, le gouvernement a été accusé de censure comparé aux dirigeants autoritaires des années 60 à 80. Il a été qualifié de totalitaire et anticonstitutionnel. Il faut dire que la K-pop génère des milliards de dollars. C'est un secteur extrêmement puissant. On n'y touche pas en Corée du Sud. Et l'industrie de la chirurgie esthétique l'est aussi et profite de cette manne. Le clip de cette chanson que vous entendez, la Six Bomb, montre 6 chanteuses avant et après leur opération de chirurgie plastique. 6 bombes en plastique donc.
Voilà, et on dit non au plastique. De plus en plus,
nous, oui,
nos
oui.
plastiques.
Nos plastiques, partout.
Amélie Perrier, à demain.
À demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Mecca. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth,
France Inter.
on est dans la neige, hein. Vous l'entendez, l'escale reportage d'Un jour dans le monde vous invite à respirer le bon air. Nous partons pour le Grand Nord. C'est l'hiver, la saison idéale pour observer les aurores boréales. Ceux qui en ont déjà vu savent que c'est un spectacle inoubliable. Des draperies de lumière plutôt vertes qui ondulent vers le ciel, parfois un peu rouge ou un peu bleu. Un phénomène évidemment connu, provoqué par les particules de vent solaire qui sont happées par les champs magnétiques terrestres jusqu'au pôle. Les scientifiques s'y intéressent évidemment, mais les touristes aussi. Bonsoir Frédéric Faux.
Bonsoir.
Frédéric, vous vous êtes rendu à Kiruna, c'est dans la Laponie suédoise, vous avez de la chance et vous n'y êtes pas tout seul.
Oui, je suis là dans un van avec un groupe de touristes qui s'apprêtent à photographier des aurores boréales au bord d'un lac gelé. Alors les aurores, ce n'est pas comme le coucher du soleil, vous ne pouvez pas dire à tel endroit, à telle heure. À chaque départ, c'est l'incertitude qui règne, comme le dit Annette, notre guide. Elle est d'origine Sami, c'est le dernier peuple autochtone d'Europe installé justement en Laponie.
On ne sait jamais comment ça va se passer. Et je ne peux pas promettre aux gens que l'on va voir quelque chose. Il y en a qui ne comprennent pas que nous dépendons de la nature.
Voilà, on arrive au bout de la piste.
From where do you come from?
New York. On vient de New York pour voir les aurores. On est déjà sorti la nuit dernière et c'était super. Aujourd'hui, c'est notre deuxième chance. On avait prévu deux nuits au cas où.
J'ai toujours voulu voir des aurores boréales. C'est sur ma liste de choses à faire depuis longtemps et je suis très excitée. J'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté, alors j'ai regardé la météo, je croise les doigts.
Mais à Kiruna, les touristes ne sont pas les seuls à attendre la nuit. Dans les locaux de l'Institut suédois de physique spatiale, l'IRF, Urban Brandström a aussi les yeux tournés vers le ciel.
À partir de la mi-décembre, le soleil est toujours en dessous de l'horizon. Et c'est l'époque la plus active pour moi, car on peut faire de très longues observations. C'est un grand avantage d'être dans une zone près du pôle, par exemple pour étudier le changement du champ magnétique terrestre, ou l'ionosphère, qui est la partie de l'atmosphère où la matière existe à l'état de plasma. C'est là que se produisent les aurores.
De tout temps, les aurores ont fasciné les hommes. Pour Aristote, ce sont d'étranges flammes qui consument le ciel. Au Moyen-Âge, à l'image des éclipses, elles terrifient les populations. On sait aujourd'hui que ces lumières sont le résultat de l'interaction entre les atomes d'oxygène et d'hydrogène de la haute atmosphère et les particules émises par le soleil. Les aurores sont donc un moyen détourné d'étudier ce vent solaire qui intrigue tant les scientifiques.
Comme vous l'avez appris à l'école, la matière peut être dans quatre états, solide, liquide et gazeux. Et il y a un quatrième état qui est le plasma, avec des charges électriques qui se déplacent librement, ce qui fait qu'il est incroyablement difficile à comprendre et à décrire. Car 99% de l'univers observable est dans un état de plasma. Les aurores sont notre fenêtre vers l'univers du plasma.
Quand l'obscurité est totale sur le toit de l'IRF, Urban Brandström inspecte ses instruments de mesure protégés par des coupoles transparentes.
Le gros appareil, là, peut faire des photos très rapides des aurores. Il peut prendre jusqu'à 100 images par seconde, dans des longueurs d'onde ou des couleurs spécifiques. Les amateurs font de très belles photos d'aurore, mais pas nous. Ce sont des photos scientifiques.
Sur les bords du lac, Annette, la guide Sami, a en effet une toute autre approche.
Pour nous, les aurores, c'est colsa, la lumière dans le ciel. Dans notre tradition, nous disons que ce sont les âmes des morts qui dansent dans le ciel. Certains disent que ce sont les âmes de ceux qui ont été victimes d'une mort violente.
Les aurores, ce soir-là, se sont fait attendre. Mais après deux heures de veille dans le froid, sans prévenir, le ciel se manifeste enfin.
On dirait que ça commence un peu. Si on a la chance, ça va continuer. Réglez vos appareils photo et éteignez les lumières.
Voilà une belle aurore qui traverse l'horizon, comme un arc-en-ciel.
Wow,
Tous les secrets des aurores n'ont pas été percés, mais elles sont devenues une véritable manne touristique pour le nord de la Scandinavie, où la saison des aurores débute dès la fin août jusqu'à la mi-avril.
Ça veut dire qu'il nous reste encore un peu de temps cette année. Merci beaucoup, Frédéric Faux, vous nous avez fait rêver. Allez, c'est ma préférée de la playlist d'Inter en ce moment, Fatoumata Diawara. Ponya. Diawara, on adore sur France Inter. Allez, Eva Bétan est là.
3, 2, 1, Winter. France Inter. Movies are made of light. Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Action!
Le cinéma en VO, Eva avec Les Moissonneurs, qui, oui, comme son nom ne l'indique pas une seconde, est un film sud-africain. En même temps, pourquoi pas moissonner aussi en Afrique du Sud. Le réalisateur s'appelle Étienne Kallos, on prononce le S, tiens, tant que je vous tiens.
C'est possible.
Il est question, d'accord, des africaneurs d'aujourd'hui. Bande annonce d'abord, on se retrouve après.
Daar is een kind in die sitkamer wat jou hulp nodig het.
C'est pas une langue très chantante à entendre, l'africaneur, mais il n'empêche.
Oui, et si ce n'était les téléphones portables, et aussi, j'ai envie de dire, surtout l'atmosphère, on pourrait croire que le film se situe il y a 30 ou 40 ans. Nous sommes dans la Bible Belt, en quelque sorte, une partie de l'Afrique du Sud où vivent des africaneurs, des blancs, des protestants extrêmement croyants, et cela se passe dans une ferme. Alors, il y a dans ce film à la fois une histoire intime de la lutte radicale de deux adolescents dans un contexte. Et le contexte, lui, signe l'époque. Ça se passe dans une atmosphère de peur diffuse. Il leur arrive rien. rien, mais il y a un danger qui rôde, semble-t-il. Ils se sentent peu nombreux. Même cette ferme qui est dans la famille depuis des générations, on a l'impression que son avenir est précaire. Ils vivent en vase clos. Il faut qu'à un moment donné, une sorte d'excursion à l'extérieur pour qu'on se rende compte que jusque-là, on n'avait pas vu de noir. Par petites tâches, le réalisateur nous fait sentir la situation de ceux qui, avant étaient les hommes forts du pays.
Nous sommes dans la période post-apartheid, mais le colonialisme et l'apartheid marquent encore la vie de tout le monde. Il y a ce poids qu'il faut en quelque sorte prendre en compte.
Mais quel est le poids sur eux? Parce que là, ils se comportent plus comme une minorité qui a peur un peu de tout, qui a peur de disparaître. Ce n'est pas le poids de la culpabilité chez eux, c'est le poids, ce qu'on sent dans votre film, de la peur de la disparition.
Ils commencent à expérimenter ce que l'on pourrait appeler le complexe de l'immigrant. Auparavant, ils étaient minoritaires, mais ils avaient le pouvoir de décision. Maintenant, ils vivent dans une bulle qui se rétrécit sans pouvoir politique. Ils vivent en dehors des villes, dans de belles fermes, avec des barreaux aux fenêtres et avec un sentiment de peur que j'ai essayé d'instiller dans le film. Ce qui se passe hors champ est très important. Le monde est dehors, la majorité est dehors. Et nous sommes centrés sur cette petite bulle qui, un jour ou l'autre, devra éclater. Mais avant de sortir de leur bulle, ces gens vont devoir faire tout un cheminement intérieur.
Et alors, il va dans cette atmosphère. Il y a donc la lutte de deux jeunes gens, deux hommes, deux faux frères, en quelque sorte.
Oui, alors, un jour, la mère de famille, qui est la plus croyante de la famille, dit à son fils, tu as un frère. Son frère de 15-16 ans, elle a décidé d'adopter un enfant des rues, un adolescent des rues. Alors, on peut se dire, c'est de la charité chrétienne, ça l'est, mais c'est troublé. On peut avoir plusieurs lectures. On peut se dire, elle sent qu'il faut des hommes forts pour peut-être demain pour avoir une chance de maintenir cette ferme. Peut-être que ce garçon qui a souffert, qui vient de l'extérieur, peut-être que c'est lui qui apportera de la force à la famille. On peut voir aussi le fils bien élevé et le rebelle comme les deux faces d'une même pièce. En fait, ça pose la question, qu'est-ce que sera cette jeunesse de demain, afrikaner de demain?
Il y a une génération qui est née et qui a grandi après l'apartheid, qu'on appelle les born free, ceux qui sont nés libres. Le cas des afrikaners est très intéressant. Ils sont nés avec un tel poids, le poids du silence autour de l'apartheid depuis 25 ans. La question que je pose est, quand est-ce que cela va finir? Qu'est-ce que ces jeunes doivent faire pour revendiquer leur identité de Sud-Africain? Doivent-ils, pour cela, brûler ce qui vient de leur ancêtre? C'est ce qu'un des personnages du film fait concrètement et métaphoriquement. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour enfin devenir des Sud-Africains et ne plus être définis par le passé? Quel chemin ces jeunes vont-ils emprunter? Je ne le sais pas. Vraiment pas. Je vous ai dit tout ce que je savais.
Formidable. La question est ouverte. Ouais.
Eh ben, écoutez, on ira voir ce film. Ça s'appelle Les Moissonneurs, signé Étienne Callos. Eva, je vous laisse pas partir sans un petit mot quand même sur le Livre Inter, parce que c'est vous la grande prêtresse du Livre Inter. Deux choses. Un, d'abord, on a bougé les dates. Vous avez bougé les dates.
Oui, pour une raison.
Vous maîtrisez l'horloge.
Les gens qui entendent à l'étranger ne savent peut-être pas que c'est les vacances scolaires en France. Et donc, pour laisser le temps aux gens d'écrire, parce que quand ils skient, ils ont peut-être autre chose à faire, c'est repoussé jusqu'au 6 mars inclus.
Jusqu'au 6 mars.
Donc, je vous rappelle que vous pouvez, il y a toujours un candidat qui vient d'ailleurs, vous pouvez poser votre candidature si vous nous écoutez de l'étranger. Voilà. Et vous serez les bienvenus. Et c'est moi qui lirait vos lettres.
Absolument, oh. Oui. Bah, ouais. Faites attention parce qu'elle est très très sévère quand elle lit les lettres.
Non, je suis bienveillante.
Eva Bétan, mesdames, messieurs, unique et inimitable dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Saintès sur France Inter.
Le monde à l'envers. Et Jean-Marc Four est de 10. Jean-Marc, dites-moi, et c'est pas fini. Depuis hier et l'annonce de Bernie Sanders, il y a donc déjà 10 candidats à l'investiture démocrate pour la prochaine élection présidentielle aux États-Unis 2020. Donc, face à un Trump controversé et critiqué, les démocrates pourraient avoir un boulevard, mais cette multiplication des candidatures vous laisse un peu penser le contraire. Peut-être qu'on est même en train d'enclencher la machine à perdre. C'est votre monde à l'envers.
Ce serait un jeu. On pourrait tous y jouer. Vous, Fabienne, moi, vous qui nous écoutez, on appellerait ça « Toi aussi, sois candidat à la primaire démocrate ». Je vois pas pourquoi nous aussi, on tenterait pas notre chance. Il faut avoir plus de 35 ans. C'est bon pour vous et moi, Fabienne. Après, c'est un peu plus compliqué. Bon, avoir vécu 14 ans aux États-Unis, vous n'en êtes pas si loin.
Ouais, pas
et aussi, c'est vrai, avoir la nationalité américaine. Bon, ok, on oublie. Je plaisante à moitié parce que franchement, on ne sait pas où va s'arrêter cette inflation de candidatures au sein du Parti démocrate. Déjà 10 candidats, vous le disiez, plus 6 qui ont monté un comité exploratoire, ça fait donc 16, et encore 16 autres. De plus, auquel on prête des intentions, dont des clients sérieux, l'ancien vice-président Joe Biden, l'ancien maire de New York Michael Bloomberg, l'ex-candidat au Texas Beto O'Rourke. Autrement dit, plus de 20 candidats possibles, un record pour les démocrates. Cessez le feu. Rien ne les arrête, et surtout pas l'âge. Sanders et Bloomberg, 77 ans, Biden, 76. En cas de victoire finale, ils achèveraient leur mandat à 83 ou 84 ans. Donc moi, je dis bravo à Richard Ojeda. Vous savez qui c'est ?
Non.
C'est un sénateur de Virginie, il était aussi candidat. Il vient de jeter l'éponge. Respect.
Allez, beaucoup de candidats quand même, c'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle, non ?
Au premier coup d'œil, on est même tenté d'y voir une bonne nouvelle en fait. D'abord, il y a de la diversité. Parmi les 10 candidats officiellement déclarés, évolution majeure, il y a 5 femmes. Vous voyez, Fabienne, je le redis, vous seriez américaine, vous auriez vos chances. 2 noirs ou métis, un fils d'immigré mexicain, une hindouiste et un homosexuel revendiqué. Je le précise parce que ça aussi, c'est sans précédent. Il y aura donc le choix avec 12 débats télévisés pendant cette primaire d'un an et demi. Et on le sait, c'est le charme du système politique américain. Ça peut faire émerger de nouveaux visages. On pense évidemment à Obama il y a 10 ans. Il y a un sérieux mais, parce qu'il y a le risque de la confusion. D'un côté, des candidats qui se revendiquent très à gauche, comme l'élu du Massachusetts, Elizabeth Warren, voire socialiste comme Bernie Sanders, ils veulent un système de santé universel, une forte taxation des plus riches. De l'autre, des figures plus centristes, comme Joe Biden, comme la sénatrice de Californie Kamala Harris, l'homme du New Jersey Cory Booker, la sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar. Comment concilier Macron et Mélenchon si vous voyez le problème ? Vous le voyez. La dernière fois, le Parti démocrate a perdu, notamment parce qu'il n'a pas su incarner une ligne politique claire et homogène. Rien n'indique dans ce déluge de candidatures qu'il sera capable de faire mieux cette fois-ci.
En même temps, ça dépend de qui l'emporte, non ?
C'est vrai, mais là encore, les premiers indicateurs rendent, on va dire, dubitatifs. Première option, on se base sur le taux de popularité sur la ligne de départ. Dans ce cas, les vieux de la vieille, Sanders, Biden, tiennent la corde. Pas forcément une bonne nouvelle pour incarner le renouvellement face à Trump. Deuxième option, le parti donne la priorité aux candidats capables de regagner le terrain perdu dans les États du Midwest qui ont basculé Trump. Alors Amy Klobuchar du Minnesota a des atouts, mais sa notoriété nationale est très faible. Troisième option, celui qui récolte le plus d'argent gagne, vu le coût faramineux de la campagne. Là encore, on pense à Sanders et Biden, mais aussi à Kamala Harris une nouvelle fois, ou à la New-Yorkaise Kirsten Gillibrand. Enfin, quatrième hypothèse, le calendrier des primaires donne le tempo. Retenez la date du 3 mars 2020. Super mardi, on votera dans 10 États, notamment en Californie, qui avance la date du scrutin. À tout, là encore, pour Kamala Harris, californienne. Je cite son nom pour la troisième fois, allez, c'est un petit pari personnel. En attendant, à l'heure où nous parlons, il y a quand même un heureux, il s'appelle Donald Trump, il est maître de son parti, certain d'être investi, il se frotte les mains à la perspective d'avoir un adversaire marqué à gauche, dont il pourrait dénoncer, je cite, l'extrémisme. Regardez son tweet de la nuit dernière, on sent sa gourmandise à l'idée d'un duel face à Bernie Sanders, il dit « Crazy Bernie vient d'entrer dans la course, je lui souhaite bonne chance ». Fabienne, et c'est encore, vous êtes sûre que vous ne voulez pas être candidate ?
Bah écoutez, on y va. Hashtag Fafa 2020. Allez, le 18-20 continue.